forever. NBA Now and Forever.
C'est à tous dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre honorable serviteur, comme d'habitude, toujours là pour vous accueillir toutes les semaines, tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming. Et je vais vous présenter donc le cast de ce jour, mes coéquipiers de la semaine. Mon premier compère pour cet épisode est celui que je considère comme Marty McFly, et non pas McFly et Carlito, pour les plus jeunes qui s'égaraient à nous écouter, de dégainer sa plus belle paire, excusez-moi, de Question Mind pour nous faire retourner vers le futur. Polo qui est avec nous, ça va Polo ?
Ça va. Merci pour l'introduction. C'est vrai qu'on essaie de rester jeune, mais c'est pas toujours évident.
Donc voilà, Marty McFly ou les joueurs du grenier pour ceux qui ont connu Tim Duncast. Ensuite, notre gourou, bien sûr, de l'intelligence émotionnelle, tellement capable de nous transmettre sa vision avec une diction claire comme de l'eau de roche qui rendrait plus d'un jaloux au grand concours d'éloquence. Damaz est avec nous. Comment tu vas, Damaz ?
Oh là là, t'es vraiment fou, toi. Ça va très bien. Salut la Team Forever, on est là. Merci en tout cas. Merci.
Et pour terminer, donc ce quatuor de l'enfer, voilà, on y est. La Forever Curse existe désormais. Il était en Zizicopter la semaine dernière et il est désormais en PLS avec les pères de Devin Vassell et de Jérémy Sohan. Comment ça va, Quentin ?
Ça va.
Le type résigné, quoi.
Ah ouais, de ouf.
Ah ouais.
C'est compliqué, hein.
Il est carbo.
Je suis tristesse.
Il est tristesse. Bon, écoute, on va essayer quand même de te relancer et de te rendre de meilleure humeur. Je vous propose, messieurs, qu'on aborde de suite donc les actualités de la semaine. Donc, on commence comme d'habitude par les joueurs de la semaine. Bon, petite dédicace à Samuel. Pour la semaine 23, donc à l'ouest, on a Luka Doncic qui est joueur de la semaine avec 32,5 de moyenne, 11 rebonds, 9,5 passes pour un bilan de 4-0. Et à l'est, nous avons Dejounte Murray pour une fois que les Hawks arrivent à se montrer avec 28,3 points de moyenne, 5,8 rebonds de moyenne, 10,3 passes avec un bilan total de 3-1. Messieurs, est-ce que ça vous semble logique ?
Oui. Oui, je vais moi évoquer l'Est, si vous le permettez. Dejounte Murray a fait une semaine exceptionnelle d'une saison très décevante de la part des Hawks. On n'en parle pas beaucoup, mais on peut considérer vraiment que les Hawks font une saison vraiment vilaine, rien que par leur effectif, par les talents présents à l'effectif et même par rapport à la qualité du coach, qui nous a plusieurs fois aussi, nous a plusieurs fois donné des avis positifs par rapport aux équipes qui l'a entraîné, telles que le Jazz. Et là, par rapport aux Hawks et cette saison, quand on a un dixième bilan, non. Mais cette semaine en question, les Hawks ont fait preuve de résilience, ont fait preuve de résistance, notamment par rapport aux victoires dont on va forcément parler, face à Boston. Parce que Boston, je crois que c'est la troisième fois cette saison qu'elle perd deux matchs face à la même équipe. C'est extrêmement rare, pour dire à tel point que Boston, vraiment, cette année, c'est quelque chose. Polo pourra en effet le signifier. Et cette rencontre, notamment la deuxième, où là, j'ai vraiment insisté au niveau de mon observation analytique. Dejounte Murray a marqué partout sur le terrain. Alors, il a shooté 43 fois, c'est vrai. Mais les Hawks lui ont clairement donné le feu vert pour qu'il puisse être le point central au niveau offensif. Et il a clairement rendu cela en menant la vie dure face à des défenseurs intéressants, tels que Derek White, qui était dans la all-time défensive l'an passé. Même Jalen Brown, ça a été compliqué pour lui. Donc avec tout ça, ben on peut s'apercevoir que Dejounte Murray est intéressant. Et moi, je dirais même, pourquoi pas ne pas envisager un trade de Trae Young pour envisager à ce que les Hawks puissent repartir sur de bonnes bases avec des joueurs de valeur, des joueurs collectifs, une solidité défensive. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas nous donner les clés à Murray au niveau du poste 1.
De toute façon, il a déjà été dans les rumeurs de transfert. Trae Young en courant de saison. C'est vrai que, enfin, c'est très compliqué. Je vais d'abord peut-être laisser. Je vais éviter de monopoliser aussi la parole. Je vais peut-être laisser Quentin revenir sur un ancien Spur, hein, pour le coup, donner un peu ton avis ou sur Luka Doncic peut-être.
Bah déjà, moi je vous rappelle qu'en off, j'avais dit qu'un joueur des Spurs serait joueur de la semaine. Ouais. J'ai pas précisé s'il était encore dans l'équipe.
C'est vrai.
Et pour revenir sur vos paroles concernant Dejounte Murray et Trae Young, je suis absolument pas d'accord sur ce débat-là. C'est un autre débat, je pense, parce que bon, bah, moi, Dejounte, je l'ai vu une saison en tant que franchise player. Mm-hmm. Alors oui, c'est sympa. Oui, c'était sa meilleure saison en carrière. Mais non, tu peux pas construire ton équipe autour de Dejounte Murray pour, si t'espères, aller en playoff.
Alors, j'ai pas parlé de construire. Attention.
Ah, ok.
J'ai pas parlé de construire.
J'ai compris.
J'ai simplement évoqué qu'il puisse prendre le poste 1 à titrer comme ça a été le cas aux Spurs, mais pas en étant l'option numéro 1.
Mmh. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'avais compris en mode.
En lieutenant, c'est intéressant. Ah non. En lieutenant, c'est intéressant, mais en tradant Trae Young pour d'autres joueurs de valeur qui peuvent être selon moi intéressants dans un collectif, pourquoi pas? Moi, je me dis que les Hawks devraient, à mon avis, y songer.
Mmh. Voilà. Bon, on en parlera peut-être d'ici quelques semaines. Je vais éviter de faire un spoiler, mais je peux peut-être un minimum déjà teaser. Il se peut qu'on parle des Hawks par la suite. Mais voilà, je n'en dis pas.
Pas te faire des amis, toi.
Non. Ah non. Mais non, justement, ce sera, je pense, un minimum objectif. Mais voilà, j'en dis pas plus. Vous le saurez un petit peu plus tard. Polo, tu veux peut-être un peu revenir là sur les joueurs de la semaine. Peut-être Luka Doncic aussi, on n'en a pas pour le moment tant parlé
ouais,
que ça.
Ouais, mais Luka Doncic, on a l'impression que c'est un peu l'Arlésienne. Tout le temps, il a l'air d'être tellement facile. Tu vois, des fois, on se demande même si il essaie d'augmenter un peu la difficulté, de mettre un peu de challenge pour corser un peu, parce qu'il a l'air tellement facile ces dernières semaines que... Même là, on parlait de la course au MVP. Je pense qu'avec les prestations qu'il fait, il est aussi en train de mettre un peu de l'eau dans son moulin pour essayer de remporter le titre. Et je pense que là, avec les comparses qu'il a dans la liste, avec Shai et puis avec le boss de Denver, je pense qu'il essaie de mettre les bouchées doux pour convaincre les gens de prêcher à sa paroisse. Mais c'est vrai que il est toujours aussi facile et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont trouvé un petit équilibre.
Ouais.
Mais pour moi, c'est à tester avec ce qui va arriver avec les playoffs, parce que c'est vrai que là, ils ont l'air d'avoir trouvé un petit groove, mais il faudra confirmer avec des vraies échéances, avec des vrais combats, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'espoir par rapport à cette équipe.
Bah pour continuer sur tes propos, en plus, Polo, par rapport aux Mavs, ils avaient un petit peu patiné début mars, mais là depuis deux semaines, ils sont à 10 victoires consécutives avec des vrais scores. Ils ont battu des équipes qui étaient dans la lutte également au playoff du côté de l'Ouest, notamment les Kings deux fois. Battre les Kings deux fois, c'est pas évident. Demander aux Lakers qui ont été sweepés cette saison 4-0. Et les Mavs sont cinquièmes. Ils sont passés devant les Pelicans, ce qu'ils étaient depuis un petit moment. Hein. Et sans compter qu'ils ont mis fin à la série des Rockets.
Oui.
Il y a des victoires significatives que sont en train d'enregistrer les Mavs sous, en effet, ben, j'allais dire la dictature, mais c'est pas le mot adéquat. Excusez-moi, hein, je regarde pas mal de documentaires sur l'Afrique centrale, donc c'est logique que les choses soient en accord. Non, Luka Doncic est tout simplement exceptionnel. Il se réveille au bon moment, comme tu l'as bien dit, Polo, pour le titre de MVP. Si les Mavs finissent cinquième, pas loin des Clippers, on peut penser clairement qu'ils peuvent envisager leur demi-finale de conférence, parce qu'on se souvient qu'en confrontation directe, il y a quelques temps, c'était pas passé loin. Et Luka, là, on pouvait, sur la question des MVP, on pouvait dire frérot, t'es 8e à l'Ouest, t'es 7e à l'Ouest, c'est vilain. Mais là, quand t'es 5e, jurisprudence Russell Westbrook, Vlad.
Non, j'en veux pas.
Oh. Non, ça passera pas avec Vlad. Ça,
moi, la jurisprudence Russell Westbrook, vous la foutez là où je pense. Hein. Moi, je.
Oh Parce que Vlad, tu aimes bien nous dire que oui, il faut être minimum top 4 de conf. Mais oui. Si les Mavs et les Clippers ont exactement le même bilan, mais que les Mavs sont 5e, ça passe du coup.
Bah non, parce qu'il faut gagner le tie-breaker.
Mais quelle mauvaise foi.
Ah oui, il est intransigeant. Il est pire que Kim Jong-un, lui.
Après, je dis ça, je dis rien, mais les Mavs, tu les mets à l'Est, ils sont 3e.
Je suis pas si convaincu que ça.
Ah bah ils ont le même bilan que les Cavs.
Ouais, mais alors après attention, je te rappelle qu'il y a aussi dans la division de Dallas.
Ouais.
Voilà. Déjà, je pense que c'est suffisant déjà pour toi. ton silence, il en dit long.
Non, mais il a raison. C'est vrai, quand tu regardes la division, elle est pas folle. Hein. Memphis, San Antonio, Houston, New Orleans.
Il y a les Pels quand même.
Ces derniers temps.
Oui, il y a les Pels. Ok, il y a les Pels, oui, qui sortent du lot.
Après, tu regardes la division des Cavs, il y a les Pistons.
Bah oui, il y a San Antonio.
Non, mais c'est encore pire, les Pistons.
oui, mais bon. Enfin, moi, je suis pas si convaincu que ça, hein, que si Dallas était à l'Est, que ce serait si facile que ça. Hein, mais bon, enfin, peu importe. De toute façon, ça reste que de la fiction après. Hein, donc, on reviendra pas dessus. Mais bon, en effet, il faut revenir très rapidement. Ouais, comment il a bousillé Houston. Oh là là là.
Ah ouais. Des fois, il a des soirées comme ça où le ref, il veut terminer des mecs au premier carton, je crois.
22 points.
Ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Puis,
il n'y avait pas même 8 rebonds premier carton, un truc comme ça.
Ouais, je sais plus exactement, mais ouais, oui, mais... il fait un très très gros premier carton. Bon. Ouais,
mais c'est grossier en plus.
Ça devient une habitude en fait.
Ouais, une vraie humiliation. Une humiliation.
Ouais. Donc, plutôt cohérent du coup les joueurs de la semaine, parce que je sais que la semaine dernière, bon, il y avait quelques. Peut-être qu'on pouvait attendre d'autres joueurs, mais je pense que la logique est plutôt respectée aussi cette semaine pour le coup. Ensuite, deuxième sujet de la semaine, nous avons donc quelques distinctions individuelles dont on a des listes de finalistes qui sont sorties. Alors après, ce sont des titres individuels qui restent quand même de second plan. Nous avons notamment le Teammate of the Year. On a une liste de 12 joueurs qui ressortent. Alors je vous fais la liste très rapide, et ce que je vous propose messieurs, c'est de me donner un peu votre favori là, juste comme ça, de but en blanc avec la liste que je vais vous donner. Alors on a d'abord du côté des Sacramento Kings, Harrison Barnes, ensuite des Brooklyn Nets, Mikal Bridges, Jalen Brown des New York Knicks, Kentavious Caldwell-Pope des Denver Nuggets, Mike Conley des Minnesota Timberwolves, Markel Fultz du Orlando Magic, Al Horford des Boston Celtics, TJ McConnell des Indiana Pacers, Larry Nance Jr. des New Orleans Pelicans, George Niang de Cleveland, des Cleveland Cavaliers, Dwight Powell des Dallas Mavericks et Jalen Williams, du Thunder d'Oklahoma City. Quel est votre favori? Moi, j'en ai un qui sort naturellement.
Ouais, il y en a un qui sort naturellement. Moi, je pense à Jalen, même si je suis pas fan des Knicks. Franchement, c'est le coéquipier sur lequel tu peux compter. Après, moi, je suis fan de Boston. C'est vrai que Al Horford, quand il rentre sur le terrain, il apporte toujours quelque chose. Il est toujours positif.
Ouais.
Il amène toujours une dynamique intéressante. Mais c'est vrai que si on regarde les stats, Brice me contredira pas. Jalen Brunson, il écrase un peu la compétition sur tous les noms que tu m'as évoqués. Je pense que quand tu enlèves Jalen Brunson de ton équipe, il se passe pas la même chose, quoi.
je vais laisser Damas et Quentin, mais j'ai un avis un peu contraire, mais pas de souci.
Moi, j'allais dire Mike Conley, qui apporte une vraie stabilité du côté des Wolves. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cette équipe, petit marché, tout ça, bien qu'il y ait Ant-Man, l'un de mes ennemis au cours des années 2020 qui arrive. Il commence clairement à monter parce que je l'aime pas, mais bon, peu importe, il est très fort. Mike Conley amène vraiment, je dirais, des fondamentaux dans cette équipe. Et en fait, tu ressens son leadership. Tu le ressens notamment. D'abord, il a toujours été un excellent défenseur. On parle beaucoup de Gobert qui est en route, en effet, pour le titre de meilleur défenseur. Mais sur les aspects, je dirais, d'une équipe sérieuse, d'une équipe type Contenders, il a vraiment amené ce step-up, cette croissance qualitative qui n'est pas visible dans les chiffres du côté de Mike Conley.
Damas, c'est visible. Hein. Franchement, pour moi qui joue au poste de meneur, je peux t'assurer que c'est visible. Après, je pense que le problème, c'est que nous, on a une analyse qui n'est peut-être pas la même que le commun des mortels. Mais là, sur le poste numéro 1, comme tu dis, il rassure tout le monde dans l'équipe.
Ah ouais,
tu vois, franchement, moi, je regarde pas souvent les matchs des Wolves,
des Wolves.
Mais quand ils rentrent sur le terrain, tu sens que tous les joueurs, ils sont confiants. Et exact. C'est ça, normalement, un numéro un. Quand il vient à la main, même si t'es pas en forme, il te fait un petit signe, il t'annonce un système qui peut te mettre en confiance, et tout de suite, ça redémarre. Et je pense que si t'as raison, c'est vraiment un plus. Vraiment.
Exactement. Mais en plus de ce que tu dis, ça vient confirmer aussi ce qu'il a fait du côté des Grizzlies de Memphis, où il y a clairement une culture qui a vraiment été mis en évidence avec le grit and grind, j'ai oublié le nom, comment on le prononce.
Grit and grind.
Ben voilà, merci. Donc, je crois l'avoir bien prononcé. Mm-hmm. Et ben, tu vois, ça vient quelque part, selon moi, couronner également la perception qu'a de ce joueur-là sur ce type de distinction. Moi, franchement, je retrouve quand même les Wolves sur certaines séquences défensives, hein, où des fois, ils peuvent vraiment fermer la boutique. Ben, t'as Conley qui a mis vraiment cette énergie en question. Et tu sais qu'on avait besoin quand tu as Big Cat qui est ton leader. Donc pour moi, Mike Conley en première ligne.
Toi, Quentin ?
J'hésite entre deux noms.
Mm-hmm.
Bah, déjà, TJ McConnell, parce que c'est un joueur que j'adore.
Voilà, là, tu me fais plaisir.
Et deuxième, c'est plus, comment dire, tu vois, je suis plus dans la donation, tu vois.
Vas-y.
Je pensais à Mikal Bridges parce que je me dis c'est le seul truc que les Nets vont voir pendant 10 ans.
Il va être tradé avant, Quentin, je t'assure.
Mais monsieur TJ McConnell, parce que déjà la propreté du monsieur, trouve que ce monsieur est d'une propreté incroyable. Et c'est un de mes petits chouchous depuis quelques années. Donc moi je mettrai ma pièce sur TJ McConnell.
10 cm de plus, ce mec, il est titulaire en NBA. Hein.
Oh oui. Bon, en effet, oui, c'est vrai qu'il n'est pas non plus super grand, mais bon, après. Ouais, pour moi, alors, pour revenir rapidement sur ce que tu disais, Polo, sur Jalen Brunson, en fait, pour moi, il est dans la course au MVP, en fait. Il n'est même pas.
Ouais.
Il n'est pas à ce niveau-là, en fait.
C'est vrai. Ouais.
C'est pour ça que moi, je ne le considère pas dans cette liste hein, de finalistes, hein, même si. On sait qu'en effet, c'est un super coéquipier, un super leader. Et on le voit là déjà depuis maintenant, c'est sa deuxième saison vraiment où il a les manettes d'une équipe. Et il n'y a absolument rien à dire. Pour moi, oui, parmi toute la liste, en effet, pour moi, TJ McConnell, je trouve que c'est vraiment le coéquipier par excellence. En fait, c'est le gars, tu lui dis, faut faire ça, nanana. Rien à foutre, le mec il s'exécute. En fait, c'est le mec coachable par excellence. Et je trouve qu'on ne reconnaît clairement pas assez en fait. Donc, malheureusement, il a toujours eu des rôles très secondaires. Pourtant, il a été quand même dans de bonnes équipes. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est. En tout cas, ce serait pas démérité que cela lui revienne parce qu'il apporte de très très bons services à Indiana d'ailleurs cette saison.
Absolument, je le confirme.
Ensuite. Le deuxième trophée, c'est le Sportsmanship Award, on va dire le prix du fair play. Alors là, on a une shortlist de 6 joueurs. On a, alors ça se joue division par division. Pour l'Atlantic Division, on a Tyrese Maxey. Pour la Centrale, on a Jarrett Allen. Pour la Sud-Est, on a Kevin Love. Pour le Nord-Ouest, on a Shai Gilgeous-Alexander. Pour la Pacifique, Harrison Barnes, et pour la Sud-Ouest, Trey Jones.
Ah ouais, si Jemma Collum n'est pas dedans.
Non, bah non, vu qu'il est déjà sur une liste de finalistes, je pense qu'ils n'ont pas voulu non plus répéter. Ouais. Ah bah ma foi si, il y a quand même Harrison Barnes, hein, donc bon. Ouais, bon, en tout cas, il n'a pas été choisi parce qu'à la centrale, c'est Jarrett Allen. Vu qu'il fait partie de la division centrale. Donc là, si vous avez un nom là qui ressort là pour vous.
Alors, objectivement,
ouais.
Trey Jones. non, Jarrett Allen.
Mm-hmm.
Pourquoi?
Bah, à chaque fois que je regarde les Cavs, tu vois quand même que le mec. Tu sais, tu vois que c'est pas un méchant, il va t'aider à te relever, tu vois, il est tout gentil. Puis son sourire, voilà, j'aime bien son sourire.
C'est le Boban Marjanovic américain.
Ouais, bon, en meilleur quand même.
oui, mais c'est vrai que... Bon, vas-y, Davaz, je t'en prie.
Non, pour moi, j'aurais dit Harrison Barnes, qui fait preuve, selon moi, d'une justesse quand même au niveau de ses comportements. Je le vois pas péter un mot plus que l'autre. Pourtant, les Kings peuvent en effet se considérer des fois comme étant un petit peu mis de côté au niveau des coups de sifflet, au niveau de la reconnaissance et même leur croissance qu'ils ont eu par rapport à l'an passé. Cette année, j'ai vu des Kings des fois, plusieurs fois se révolter par rapport à des décisions arbitrales, des comportements avec les équipes adverses. Barnes m'a l'air vraiment stable. Franchement, je lui donnerais.
Toi, Polo ?
Ouais, j'avoue qu'Harrison Barnes, en plus, par rapport à son vécu aussi, parce que c'est quelqu'un qui a été mis dans la lumière depuis qu'il a commencé, en vrai, Harrison Barnes, même en NCAA et tout ça. Moi, je me rappelle la couverture de Slam et tout. Mais ouais, après, comme disait tout à l'heure Quentin, moi, j'aurais mis une pièce sur Shai, parce que pareil, Shai, il a cette énergie aussi d'être toujours content d'être là. Tu vois, ouais. On a l'impression que il se prend pas la tête, il apprécie vraiment ce qu'il fait, il est, comme dirait Damaz, il est épanoui. Tu vois, il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Il dégage ce côté épanoui en tant que joueur et dans son collectif. Et ouais, moi, j'aurais mis une pièce sur Shai aussi. Tu vois, après, Harrison Barnes, vous avez raison, mais aussi sur Shai aussi parce qu'il dégage ça, même par rapport à son collectif, d'être content d'être là, tu vois.
Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Hein. Et pour rappel, Harrison Barnes, il fait partie, hein, et ça prouve, pour aller dans ton sens, pour abonder ce que tu dis, Damaz, il faut rappeler que c'est le mec, quand il jouait à Dallas, qui s'est fait transférer en plein match.
En plein match. Hein, et pas... Moi, je me souviens de cette image-là. Hein. C'est pour dire à tel point que le système NBA, on n'en parle pas beaucoup.
Il est impitoyable.
Ah non, il est très violent. Hein. Il est très violent.
Pire que Dallas.
Ah non, déjà que j'aime pas cette équipe déjà, donc... Je n'ai jamais aimé, bien qu'ils nous ont charmés avec de très beaux effectifs, de très beaux rosters, pas de souci. Mais moi, Dallas, je déteste. Mais ouais, non, le trade de Barnes, il a fait mal. Surtout que Dirk Nowitzki, en plus, dès les premiers temps où Barnes arrivait chez les Mavs, ils lui ont donné les clés offensives pour la succession de Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki s'était prononcé dans la presse en disant « Ah, je suis pas sûr que Harrison Barnes soit l'élément qu'il faut pour la remise à niveau des Mavs. » Ouh là là, quand ton franchise player qui arrive à la fin de son règne, il te balance ça.
C'est moche, hein.
Ouais.
Ça fait mal, hein.
Ah, psychologiquement, faut repartir au combat. Oh putain. Donc, ouais, le bonhomme, moi, je lui mets une pièce là-dessus.
Ouais, bah, ça peut se comprendre. Bon, bah, pareil, en toute objectivité, hein, pour moi, ce sera Tyrese Maxey. Hein, vous doutez bien. Non, je rigole.
En grand fan du.
Je fais mon Quentin aussi. Je prêche pour ma paroisse. Non, sinon, ouais, moi, je partirais aussi sur Jarrett Allen parce qu'en fait, c'est le mec qui ferait pas de mal à une mouche, tout simplement. Et puis, qui est toujours très clean au niveau de son comportement. Et je pense que même la dynamique en interne à Cleveland, il y a aussi il a un grand rôle aussi dans ça. Hein, donc. Ça va à la fois avec la bonne ambiance, je pense, qui règne au sein des Cavs, mais aussi sur les résultats. Hein. Franchement, moi, c'est toujours un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et petite mention aussi pour Kevin Love aussi au passage.
Ouais, c'est vrai.
Qui mérite aussi.
Par rapport aux Cavs dont tu parles, Vlad, j'estime que ça leur joue quand même des tours. Hein, ou des fois, quand tu leur rentres dedans défensivement, un petit peu trop soft, les mecs, là. Moi,
ils sont pas assez méchants. Tout simplement.
On a encore le souvenir. On a encore le souvenir de l'échec au premier tour des playoffs face aux Knicks. De Brice, hein. On s'attendait pas à ce qu'ils prennent 4-1. Le score est violent. Donc, Jarrett Allen, in the paint, là, avec son pote, là, Evan Mobley, là. Ouais. Qu'on appelait souvent, soi-disant, la révolution Kevin Garnett, là. Moi, j'attends toujours, hein.
Il est toujours au taquet. Ah, de ouf. La balle, ça tire à balle réelle ici.
Ah, moi j'attends.
Bah écoute, on verra. De toute façon, c'est vrai que les Cavs sont quand même aussi attendus pour les playoffs à venir. Donc voilà pour les deux distinctions individuelles pour lesquelles on a déjà la liste de finalistes à cette heure-ci. Troisième. Alors, je voulais choisir, messieurs. Est-ce que vous souhaitez plutôt parler, en déplaise à Quentin, de la fin de saison de Devin Vassell et de Jérémy Soran? Ou est-ce que vous préférez parler, malheureusement, d'une nouvelle qui va énormément attrister, je pense, Polo, la retraite de Rajon Rondo?
Oh, leur retraite de rejoindre Rondo.
Non, Rondo d'abord.
M'en parle pas, c'est incroyable. Moi, j'ai vu ça en rentrant du boulot, là.
Pareil.
Je scrollais sur mon téléphone. Mais après, tu sais, quand c'est plus ton heure, il faut arrêter. Mais c'est vrai que c'est. Moi, il m'a. Enfin. En grand fan de Boston, moi, j'ai sauté de mon canapé. S'il y avait une caméra chez moi pendant les matchs de Boston quand il était là, je pense qu'on pourrait faire un bêtisier. C'est incroyable. Je sautais dans tous les sens. Je me disais, putain, mais le mec, il n'a pas de shoot, mais il vous met à l'amende.
Comment il peut être fort comme ça? Comment il peut être fort comme ça?
C'est incroyable. C'est pour moi, c'est. Après, on a fait tellement d'émissions par rapport à lui, par rapport à son comparatif avec Chris Paul et tout. Mais voilà, pour moi, si t'es meneur, si t'as un tiers de la puissance du type, t'as déjà gagné.
Ah gros, c'est énorme. Tu peux aller très loin. Tu peux aller très loin. Pour suivre tes propos, Polo, moi, Rajon Rondo, je ne comprenais pas pourquoi ce mec était titulaire dans la team des Celtics avec les vieux Celtics là, qu'on a vus fin année 2000. Mais frérot, les playoffs qu'il fait en 2010, même les playoffs qu'il fait même en 2008, il a quand même des stats très intéressantes. Rajon Rondo nous a tous impressionnés. À un moment, il était, selon moi, le meilleur meneur de la Ligue. Les gens ont le droit de le penser. Alors, c'est le dernier meneur distributeur majeur
que
la Ligue ait vu. Parce qu'aujourd'hui, on tombe sur une Ligue où les postes 1 sont scoreurs, qui a été orchestré en effet par Derrick Rose, justifié par son titre MVP en 2011. Mm-hmm. Là, on parle d'une époque des mecs qui sont nés fin années 80. Hein. Rajon Rondo, c'est un 86, je crois. 16 ans dans la Ligue, 2006-2022. LeBron James lui doit une bague. Après le gros service rendu lors des playoffs 2020, Disney, que Samuel n'arrête pas de critiquer, mais qui célèbre en secret. Non. Je parlais une fois avec Massy. Massy, c'est un mec avec nous à la cité à Nanterre et tout, avec qui on a grandi. Et Rajon Rondo avait rejoint les Kings de Sacramento après les embrouilles qu'il a eu à Dallas avec Rick Carlisle, ça s'est mal passé. Et t'as Massy qui disait, ouais, Rajon Rondo, Damas, comment tu peux parler de lui dans le top 3? Qu'est-ce que tu racontes et tout? J'ai dit, frérot, calme-toi. Surtout qu'à cette époque-là, Rajon Rondo n'était plus titulaire en plus aux Kings. Il démarrait du banc.
Ouais.
Et Rondo a fait une interview, il a dit, vous inquiétez pas, calmez-vous. Je suis un grand joueur, je suis une grande star, vous inquiétez pas, on va remettre ça à jour. Purée, le mec, il revient titulaire, il est meilleur passeur de la Ligue. Saison 2016-2017, meilleur passeur de la Ligue. Je revois Massy quelques mois après. Il me dit, ah ouais, Damas, ouais, excuse-moi, franchement, là, je dois me taire. Ouais, Rajon Rondo, en fait, c'est un bête de mec. Mais tu rigoles ou quoi? Il a été 3 fois meilleur passeur de la Ligue.
Ouais. Ça, on l'oublie, hein.
Sans compter qu'il a un excellent défenseur et qu'il a un très, très bon intercepteur de ballon.
Franchement. Ouais, bien sûr.
Ah oui, on n'oubliera pas, Apollo, les embrouilles qu'il a eues avec Jimmy Butler et Dwayne Wade du côté des Bulls, qui avaient clashé les jeunes joueurs de l'effectif. Rajon Rondo qui réagit direct en disant, vous prenez pour qui, vous? Pourquoi vous faites les fous et tout, laissez les petits se développer? Pourquoi vous êtes durs avec eux? Rajon Rondo était rentré dans l'art. Mmh. Mais même Kevin Garnett l'avait avoué. Rajon Rondo, c'est. À l'entraînement du côté des Six, c'était le seul qui contredisait Kevin Garnett à l'entraînement sur les stratégies de jeu. Il est d'une intelligence, ce mec. Il lit tout. Il lit tout.
C'est
vraiment.
Ça. Mais franchement, pour revenir à ce que tu dis, mais souvent, moi, je parle, tu vois, je joue souvent de temps en temps sur les terrains et j'ai l'impression que ça se perd, ce côté de lecture de jeu, comprendre l'environnement, comprendre les défenses, tu vois. Après, le problème, c'est que la ligue ne enfin, en vrai, la ligue te propose un jeu d'attaque. Toi et moi, souvent, Damas, on est souvent d'accord. La ligue, elle est là pour faire briller. Elle est là pour que ça soit rapide, que ça soit fluide et pas pour que ça soit des combats de tranchées. Mais moi, je trouve ça un peu hypocrite parce qu'en vrai, quand on arrive dans les playoffs, c'est ça qu'on voit. C'est des matchs hachés, des possessions qui durent vraiment 24 secondes et où on essaie de faire déjouer les autres. Mais pour faire vendre des maillots, pour faire vendre des places, vite. Moi, c'est un peu biaisé, mais tu vois, c'est ça. Ça se perd. Après, il y a encore des joueurs qui ont encore cette énergie de comprendre le jeu, d'essayer de prendre le jeu à leur compte et d'être comme Rondo des stratèges, mais c'est pas tout le monde.
Exact.
Ouais, non, mais c'est. On oublie, on prend très rapidement, enfin, on prend souvent pour acquis hein, Rajon Rondo. Mais c'est faut le rappeler aussi que c'est une éthique de travail qui est impressionnante.
Ah,
une connaissance du basket qui est folle. Hein, d'ailleurs, qu'il arrive très bien à illustrer en ce moment, hein, car il est coach hein, d'une équipe de lycée, si je ne dis pas de bêtises, qui fait de très bons résultats. Hein, et il y a ne serait-ce qu'un certain LeBron James hein, qui a dit limite, ce mec est trop intelligent en fait, pour coacher en NBA.
Bah, bien sûr. non, mais il rentrait dans l'art de ses coachs.
Mais bien sûr.
Il rentrait dans l'art de ses coachs. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une bonne lecture. Il n'avait pas peur de parler. Alors que le mec, il ne s'est pas shooté. C'est incroyable, mais c'est un ouf.
Et surtout attention, en plus, au fur et à mesure, enfin, tout le long de sa saison, il a quand même vachement progressé au tir.
Ah oui, beaucoup.
Parce qu'avec les Lakers, il en a mis des tirs clutch. Hein.
Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Il a fait le nécessaire pour apprendre, en fait. Hmm. Alors que c'est pas un geste naturel, on le sait. Mais non. Moi, franchement, je suis sous le charme. RR9, il n'y a pas photo. Rajon Rondo, merci.
Voilà.
Moi, 2h du matin, 1h du matin, heure perdue, je peux regarder les Celtics à cause de lui. Hein. Mais tu rigoles, toi.
Ah ben, normal. Bien sûr.
Vraiment, merci. Mais LeBron James est passé par là, vas-y.
Ah putain, je vois qu'il te fait du mal. Hein.
Ah mais, change de sujet, vas-y.
Vas-y, Quentin, je pense que tu voulais prendre la parole.
Bah bon, moi j'aurais pas autant d'attachement que vous parce que j'étais un petit peu jeune quand Rajon Rondo était aux Celtics. Alors j'ai commencé à suivre. Ouais, c'était ces dernières années à Boston quand j'ai commencé un peu à suivre. Donc bon, moi j'ai connu quasiment que le Rondo remplaçant.
Ouais.
J'avoue que sur un terrain, même je me souviens encore du run de playoff en 2020 là. Quand tout le monde était excité sur Rondo, ouais, c'est plus off Rondo, machin. Franchement, le mec, super impressionnant, surtout qu'il était déjà un peu vieux à cette époque-là. Et vieux, il était plus titulaire. Ouais. Franchement, rien à dire sur lui. En plus, même si je dis pas de conneries, sous le run de 2020, il était plutôt très propre à 3 points en plus.
Il était excellent même.
Donc, ouais, franchement, c'est une légende qui s'en va en retraite. Après, moi, je retiens plus les derniers événements hors terrain, malheureusement.
Ouais, bon.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que le hors terrain n'était pas, enfin, surtout ces derniers temps, n'était pas des plus fameux le concernant. Hein, pour revenir très rapidement sur le sujet, hein, il a quand même fait pas mal parler de lui sur, on va dire, la case faits divers. Hein, on parle de menaces envers sa femme. Possession d'armes illégales, il est même question de drogue. Bon, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, voilà, qui viennent et ça faisait 2 ans.
Il a un caractère difficile. Il a un caractère difficile.
Ouais. Ah oui, ouais, attention, oui. Pardon, ouais, c'est ça. C'est une vraie tête de con hein, sur ça. Ouais. Sur ça, faut. Ah bah. Sur ça, c'est vrai. et c'est pour ça. Hein, et je pense que c'est ça qui lui a fait défaut sur les 2 dernières saisons où il n'a été appelé par absolument aucune équipe, malheureusement.
Aucune équipe.
Mais en tout cas, ouais.
Tu sens que c'était un Celtics 2008, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Au niveau tête de con, là, le mec, il est arrivé, il avait Paul Pierce et Kevin Garnett. Attention.
mais c'est bien que tu parles de ces noms-là, parce qu'il fallait s'imposer devant ces roublards-là. Ils ont plus de 10 ans dans la Ligue, ces mecs. Donc, quand ils voient un petit bonhomme meneur, quand on connaît l'importance de ce poste, s'imposer dans le 5 majeur, mais comment tu vas faire pour te faire front à ces mecs-là, alors que toi, t'as que 2 ans dans la Ligue? C'est pas évident de pouvoir faire front à ces vieux croutons qui ont roulé leur boss dans toute la ligue, qui sont respectés par x y personnes. Toi, t'arrives à faire ta place là? Ça veut dire qu'il faut faire attention au profit du mec. Et ça, franchement, Rondo, encore une fois, merci.
En effet, merci l'artiste. Dernière news. Alors, c'est plus, on va dire, une petite rétrospective très rapide. Car, alors, pour le coup, ça va être un petit peu mon monologue, hein, je vous prie de m'excuser, messieurs. Mais on a eu un événement quand même majeur. Alors, hors NBA, on sort un petit peu du cadre NBA. J'ai eu le plaisir et l'honneur de commenter tout le week-end dernier le tournoi international U19 du Cholet Mondial Basketball, hein, donc qui, comme le nom l'indique, se déroulait à Cholet. Donc, une compétition, un tournoi de 12 équipes, hein, dont plus des deux tiers étaient internationales. Hein. On avait pour les équipes françaises, donc on avait Cholet, la Chorale de Rouen, les Métropolitains de Boulogne-le-Valois, ainsi que la JL Bourg, et on avait d'autres équipes qui venaient à la fois donc de République tchèque, d'Italie, du Canada, des États-Unis, de Hongrie, d'Allemagne, d'Espagne et d'Estonie. Compétition qui s'est terminée avec un énorme finish. Alors n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le déroulement de ce tournoi, il y a tous les matchs qui sont disponibles en replay sur YouTube, hein, sur la chaîne Sport Media Mat.
Et c'est propre, franchement, c'est super propre. Moi, franchement, pour avoir regardé avec le lien, je t'ai dit, hein, moi, félicitations parce que franchement,
merci.
Vous avez géré, c'était propre. Ouais. T'as rien à dire.
D'ailleurs, j'étais excellemment accompagné par Kevin, hein, aka Le K, qui fait partie, bien sûr, de Forever aussi. Et merci d'ailleurs à lui aussi de m'avoir accompagné durant tout son week-end, mais je ne reviendrai pas sur l'état dans lequel il était.
Tu peux nous dire s'il est vers les yeux.
La boisson.
La potion.
La potion.
Ah, il faut tenir, c'est dur.
Il est tombé dans tous les traquenards.
Voilà, il n'avait pas la roublardise que tu as, toi, de cette expertise de voir les dangers tout de suite analysés.
Je n'en dirai pas plus. Depuis, on l'appelle Panoramix. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Mais en tout cas, donc 4 jours. Hein, au total, il y a eu plus de 5 matchs en 4 jours pour chaque équipe. Hein, donc, ça a été quand même très intense, hein, quasiment entre 8 et 10 heures de live, hein, par jour. Mais en tout cas, excellente compétition avec énormément de niveaux. C'est vrai que les équipes U19, je ne les connais pas forcément plus que ça. Et il y a quand même eu de sacrées pépites qui ont été découvertes. Hein. Notamment le meilleur passeur de la compétition, hein, qui est Aaron Towonansi, hein, donc meneur. Meneur qui joue actuellement avec l'équipe Espoir de Cholet. Le mec a 15 ans.
Oh.
Voilà, il a 15 ans. Et sur la finale, face à la Chorale de Rouen, il termine juste meilleur marqueur avec 32 points, 5 passes, 25 d'évaluation.
Oh là là.
Mais malheureusement, Cholet n'aura pas réussi à remporter son propre tournoi, car on avait la Chorale de Rouen qui était vraiment le rouleau compresseur. Ils ont vraiment éclaté tout le monde. En dehors donc de Cholet, hein, ça s'est terminé avec un énorme finish en prolongation, avec notamment donc le MVP, alors à la fois MVP de la finale et MVP du tournoi, Samuel Mariscal, hein, qui termine alors avec la bagatelle de 29 points, 12 rebonds, avec 36 d'évaluation sur la finale. C'était un match parfait, en fait, qu'il a fait. Le panier était une bassine.
On aurait dit Kobe. Franchement, quand t'as commenté, c'est vraiment, on aurait dit Kobe. Franchement, on dirait que
incroyable.
Il est mis sur le terrain, il dit, bon, les gars, c'est moi qui gère.
Non, il fait un énorme match. Donc, match qui se termine, hein, sur le score de 85-80 pour la Chorale de Rouen. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur la compétition. Donc n'hésitez pas à aller checker, hein, la chaîne YouTube Sport Media Mat pour regarder, hein, les matchs. Vous allez vraiment vous régaler, et je remercie aussi au passage, bien sûr, toute l'organisation du Cholet Mondial Basketball de nous avoir accueillis avec Kevin aussi chaleureusement, et en tout cas c'était au plaisir. Ensuite,
tu oublies de préciser que vous avez pu rencontrer des grands joueurs et faire des interviews avec ces joueurs là parce que là tu dis ça comme ça avec une légèreté incroyable, mais quand même.
Ah, c'est vrai que j'ai eu l'immense honneur, hein, d'ailleurs, les émotions d'avoir une petite entrevue de quelques minutes avec Antoine Rigaudot, rien que ça. Antoine Rigaudot, j'ai eu aussi Tidjane Salin, donc futur prospect, hein, pour la draft à venir, hein, qui est plutôt bien positionné sur la future draft. J'ai eu Kido, donc j'ai eu bien sûr Samuel Mariscal, hein, donc le MVP de la finale et du tournoi, et j'ai eu également donc le parrain, hein, du tournoi, qui est Kim Tilly, hein, donc international français qui joue aussi à Cholet. Donc bon, c'est vrai que ça, c'est
bah
plutôt,
oui, il faut pas oublier, faut s'envoyer des fleurs un peu quand même, c'est pas n'importe qui quand même.
Non, c'est vrai, mais voilà, et n'hésitez pas à checker donc la chaîne YouTube de Sport Media Mat si vous voulez en voir plus. En tout cas, vous allez vous éclater, messieurs. Je vous propose qu'on attaque de suite le débat de la semaine. Par faute de temps, c'est vrai qu'il a été pas mal pris ces derniers temps, notre cher Loris National, donc malheureusement, il n'y aura pas de chronique comme il a l'habitude de le faire toutes les semaines. Après, je peux éventuellement vous faire peut-être une imitation un petit peu de Loris. Hein. Ah bonjour, c'est Loris qui a les 4 minutes. Bienvenue. Dégommer tout le monde hein, parce qu'on m'appelle John C. Voilà, donc voilà, je suis super mal l'accent du sud.
Ouais. Oui.
N'est pas Marseillais qui veut.
Ah, n'est pas
vraiment.
N'est pas Marseillais qui veut, en effet.
Et moi, comme un idiot, je supporte Marseille, quoi.
Ah, mais toi...
Non, tu n'es pas idiot, c'est juste que Marseille, c'est dans la culture. Si on aime le foot, je pense que voilà, c'est... Il y a un truc, mais chacun prêche sa paroisse.
Ouais. Ah bah, comme pour toujours. Raphaël dira le contraire.
Hein. Mais oui, mais Raphaël, c'est le président du PSG. C'est comme quand Mbappé fait des trucs un peu à côté, on dirait qu'on lui arrache sa bourse. C'est normal.
La bise au passage à Raphaël Chader. N'hésitez pas à checker le podcast Passion Saint-Germain pour les fans du PSG. On va revenir sur le sujet. Donc, très simple. En une question, qui fera le cut pour les playoffs? Donc là, on parle vraiment pour ceux qui sont en ballotage. Hein. En ballotage pour le play-in, donc si je vous donne là pour la conférence Est actuellement à date d'enregistrement, donc nous avons à la 7e place le Miami Heat, à la 8e place les Philadelphia 76ers, à la 9e place les Chicago Bulls et à la 10e place les Atlanta Hawks. Et dans la conférence Ouest, nous avons à la 7e place les Phoenix Suns, à la 8e place les Sacramento Kings, à la 9e place les Los Angeles Lakers et à la 10e place les Golden State Warriors. Allez-y, messieurs, battez-vous.
Wow. Bah, franchement, moi, à l'Est, je regardais un petit peu là, en rentrant. Le problème, c'est que Miami, c'est un peu des escrocs. On a l'impression toujours qu'ils sont en mode sous-marin. Et puis, dès qu'ils rentrent en mode play-off, c'est une autre équipe. Donc, c'est un peu le traquenard. Mais franchement, quand je regarde comme ça, là, en regardant les matchs et les points, Philadelphie a quand même 4 points d'avance sur Chicago et Philadelphie a l'air d'être sur une bonne dynamique, mais après le problème c'est qu'on ne sait pas si notre ami le Camerounais français sera de retour pour les
Américain
aussi, j'avais oublié.
Quand il est blessé l'Américain mais... et quand il joue il est français.
Voilà, mais c'est... moi le souci pour Philadelphie c'est que c'est pas la même équipe quand il est là et quand il n'est pas là, donc je mettrais une pièce sur Miami et Philadelphie parce que Chicago c'est trop instable et Atlanta on voit hein, c'est depuis des années on sait pas quoi en dire, donc je me prononcerai pas du tout.
Damaz,
mais automatiquement à l'Est on va penser au Heat via l'expérience et les performances qu'ils ont pu réaliser sur les 3 dernières années pratiquement, hormis 21 où ils perdent au premier tour face aux Bucks 4-0, mais le Heat, c'est vraiment l'équipe qui peut vraiment tout foudroyer à l'Est. Même si cette année, bien qu'il présente des garanties défensives évidentes, hein, le Heat encaisse 108 points par match. Je crois que c'est la 3e meilleure défense à l'Est, voire la 4e, donc ça reste quand même intéressant. Mais c'est offensivement ou c'est catastrophique. Le Heat ne score pas. Alors, le Heat ne score pas parce que déjà les forces offensives sont souvent blessées, en pensant évidemment à Tyler Herro, parce qu'il ne fait pas que 20 points par match, Tyler Herro. Il y a également les décalages qu'il fait, les passifs qu'il fait, donc il y a tous ces détails-là. Duncan Robinson est blessé, Jimmy Butler a été convalescent toute la saison. Donc, vaut mieux que pour le Heat, les forces en présence puissent revenir à un certain niveau, parce que dans une confrontation face aux Bucks, au premier tour de play-off, parce que là, concrètement, le Heat, selon moi, battra les Sixers, même avec le retour de Joel Embiid, dans une situation play-in. Par conséquent, ça serait les Bucks qu'ils affronteraient. Le Heat est capable de produire justement un upset. On le sait, en fait. On le sait. Maintenant, un petit peu plus haut, mes Pacers, pour évidemment parler un petit peu d'eux, parce qu'on n'en parle jamais, Vladimir, s'il te plaît.
Non, mais c'est parce qu'ils sont à la 6e place. C'est vrai que pour le moment, ils sont en ballotage, on va dire, favorable.
Ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Pourquoi? Parce que ce qui me fait chier, c'est qu'en NBA, on ne peut pas se permettre de faire une soirée sans. Tu es un peu moyen et tu affrontes des mecs qui sont dans une bonne hype. Tu peux te faire gonfler. Hein, et tu peux prendre ta vraie série de 20-0. Hein. Et c'est comme ça pour toutes les équipes de la Ligue. Même les Wizards qu'on clash. Jordan Poulet, il peut te régler. Moi, mes Pacers, ils encaissent 120 points par match, mais profitez de cette dernière quinzaine de saison régulière pour avoir de vrais fondamentaux en défense, merde. Moi, j'en peux plus, parce que j'ai pas oublié le 150-145, hein, Vladimir, hein, face aux Lakers. Mm-hmm. Donc, avec tout ça, on est censé affronter les Cavs, si tout se passe bien, au premier tour de play-off, ou voir New York, parce que New York n'est pas loin du tout. Mm-hmm. Je suis pas du tout en sécurité.
Ouais, parce que, oui, bon, c'est vrai que Indiana, actuellement, donc à jour d'enregistrement, hein, est sixième, hein, mais on a seulement un match d'écart avec Miami et 2,5 avec Philadelphie. Bon, je pense que pour Philadelphie, ça va être un peu plus compliqué, pardon. Mais Miami, attention, ils peuvent faire, on va dire, le hold-up de fin de saison en chopant la sixième place. Sachant aussi que, il y a aussi Orlando qui n'est pas non plus encore complètement à l'abri.
Mais voilà ce que tu oublies de dire aussi par rapport à Indiana, c'est qu'on en parlait un petit peu avant même que démarre l'émission. Le problème, c'est le calendrier. Oui. Le problème de Indiana, c'est le calendrier. C'est-à-dire que là, sur la fin de saison, ils ne vont pas affronter des tocards. Ce que je veux dire, ils vont affronter des OKC, ils vont affronter des équipes qui vont se préparer aussi pour les playoffs. Donc, j'espère, comme l'a dit Damas, que le mindset de l'équipe d'Indiana, c'est de dire OK, là, on a laissé passer le vent, là, on a laissé passer, mais maintenant, on ferme la porte du saloon. On est vraiment solide. On tient la barre. Parce que là, ça va être chaud.
C'est vrai qu'Indiana, alors, c'est bien, au moins, ça va être un test aussi. C'est l'avantage pour Indiana. Ça va être aussi une vraie préparation en vue des playoffs à affronter justement des équipes très, très sérieuses. Toi, de ton côté, Quentin, est-ce que tu as peut-être une équipe qui ressortirait peut-être un peu plus que les autres?
Alors, j'ai une hot take.
Oula. Oula. Vas-y.
Vraiment très, très hot take.
Ouais.
Les Sixers ne sortent pas du play-in.
Ouf. Même avec un potentiel retour de Joel Embiid?
Ouais.
Okay. C'est fort, ça. Hein. Ouf. C'est fort.
C'est ma hot take. Je suis pas serein, mais c'est ma hot take.
Je connais ta hot take, c'est bon, vas-y. Bon, déjà, ils vont pas passer face à Miami et il va y avoir les vieux démons de 2021 qui vont revenir et les Hawks vont passer.
Ah non, je pensais pas aux Hawks.
Ah, en Chicago?
Ouais.
Oh, arrête.
Ah, alors, avant le début de la saison... Moi, je les avais foutus 14e, les Bulls.
Bah, c'est
voilà.
Vrai que moi... Moi, je les avais mis dernier de la conférence.
Mais qu'est-ce qu'il vous prend?
Bah, Chicago, frère.
Ça fait un an, j'attends qu'ils explosent. Tu vois.
Bah, c'est ça, oui. Moi aussi,
C'est ça.
On est exactement dans cette vision-là.
Mais là, avec le niveau que certains ont pu montrer cette saison, je pense par exemple à une personne dont on a déjà parlé sur Forever, hein, Monsieur Demar DeRozan.
Petit Demar.
Ouais.
Le petit Demar. Je pense à Demar DeRozan, Alex Caruso, Coby White. Coby White, cette année, c'est quand même très, très sérieux. Tous ces petits mecs-là où j'étais en mode « Eh, vas-y, ils sont nuls, ils vont finir 14e. » Non, mais... Ils font vraiment des bonnes saisons, tu vois. Limite, là, le pire dans ceux que j'ai pas cités, c'est Vucevic. Alors que Vucevic, ça reste un bon pivot titulaire NBA. Tu vois, un bon rebondeur, il peut scorer, il peut écarter, tout ça. Mm-hmm. Même Patrick Williams, il m'a étonné cette année. Bon, il a joué 40 matchs, je crois.
Mm-hmm. C'est ça.
Mais voilà, on va pas parler d'André Drummond, parce que même lui, il fait quand même une belle saison.
Ouais.
Et je me dis que sur un match... On sait que tout peut se passer sur un match. On sait que Demar DeRozan, ça peut être un joueur très clutch. Bon, un peu moins en post-season. Mais ça peut quand même. Donc ma hot take, c'est... t'as le Heat qui passe les Sixers. Et après, Sixers-Bulls, les Bulls vont passer.
Eh bien.
Et puis voilà, on viendra attraper ma veste quand Embiid sortira un 50 points, 20 rebonds sur Vucevic.
Ouais, mais ça veut dire que les Bulls, ils battent les Hawks, sur le match 9-10, ouais. Alors que hier, c'est les Hawks qui battent en plus les Bulls.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est les Hawks qui battent les Bulls avec un rythme à 3 points effréné, parce qu'on sait que les Hawks, en termes d'effectifs, ben, ils sont capables de faire mal à n'importe qui. Ça, on l'a reprécisé en début d'épisode par rapport aux Celtics, deux fois. Je suis pas sûr non plus que les Bulls puissent battre les Hawks, hein. Faut faire attention à ça.
Attention les Hawks, le problème aussi c'est qu'ils dépendent beaucoup du shoot à 3 points. Malheureusement, moi je regarde pas tous les matchs des Hawks, mais là où quand ils gagnent des matchs, c'est quand ils en mettent à foison.
Beaucoup, beaucoup.
Et le problème, c'est que quand on ferraille un peu le shoot à trois points, il n'y a aucun grand joueur de mi-distance dans l'équipe des Hawks. Honnêtement, à part, j'ai oublié comment il s'appelle, le joueur européen, là.
Bogdanovic.
Voilà, à part Bogdanovic, bon qui lui, il respire le basket, tu vois.
Ouais,
mais
ouais.
Tous les autres, ils sont focalisés par le shoot à trois points. Et c'est ça, pour moi, qui fait un peu défaut par rapport à Atlanta, c'est qu'ils ont plein de joueurs excellents, mais ils sont obnubilés par le shoot à trois points. C'est incroyable.
Sans compter que défensivement, ils sont catastrophiques. Ils encaissent plus de 120 points par match.
Ah oui.
C'est des détails qui ne manquent pas parce que, admettons, c'est comme si pendant une année, Vlad, tu n'as pas été sérieux pour ton année du baccalauréat. Et tu veux nous mentir que quand on arrive maintenant à la session d'examen, tu fais le mec, tu révises pendant 3 mois. Mais frère, arrête de nous dribbler. À un moment ou un autre, les lacunes que tu as accumulées pendant 7 à 8 mois, tu crois que ça ne va pas se voir?
Pourquoi tu me rappelles mes souvenirs de lycée où pendant 3 années, je n'ai absolument rien foutu, j'y suis allé au talent.
Mais t'étais pas au courant, t'étais pas obligé de le dire. Mais voilà, c'est pour dire que les Hawks ont manqué de sérieux défensivement durant toute l'année. Et dans un match à 48 minutes, tu peux avoir des séquences défensives intéressantes. Mais tu auras automatiquement ces trous d'air que tu as eu pendant 82 matchs.
Ouais.
Et là, ça va faire mal. Et là, en effet, il faut taper dessus. Donc, pour moi, malheureusement, en effet, les Hawks, ben, le défaut, il est là. En défense, il ne
faut rien. Faut pas oublier un truc avec les Hawks, c'est que Trae Young, on n'a toujours pas de date de retour.
Ouais. Ah ouais ?
Non. Ouais. Justement, je suis allé vérifier pendant que tu parlais.
Non, il n'y a pas de date.
Il n'y a pas de date de retour. Donc, potentiellement, pas de Trae Young pour le play-in, voire d'éventuels play-offs.
C'est chaud, ça.
Déjà, ça va être très chaud. Et moi, j'ai déjà vu Dejounte Murray jouer un match de play-in en étant franchise player.
Avec les Spurs, je crois.
Ouais. Comment te dire qu'il puait la merde, voilà.
Ah ouais, hein,
désolé, mais il faut dire les termes.
DeRozan était là ?
Non, il n'y a plus DeRozan. DeRozan était déjà au Bulls.
C'est juste avant.
Ok.
Donc voilà, moi je serais pas super serein. Pour les Hawks, surtout que t'as encore des mecs un peu fragiles, je pense, deuxième meilleur joueur de la saison, on peut le dire, Jalen Johnson, qui a connu beaucoup de blessures, donc voilà, on sait pas trop comment ça va se passer, et puis en plus, le mec vient juste d'exploser en régulière, est-ce que ça va être la même quand ça compte vraiment? Il y a beaucoup d'interrogations, Clint Capella, les DeAndre Hunter, tout ça, tu vois, c'est pas des mecs qui donnent confiance, Sadiq Bey aussi, dans les mecs qui donnent pas confiance, pour ne pas l'oublier. Donc moi, je les vois se faire défoncer au premier match, les Hawks.
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et ça serait mérité, selon moi aussi, par rapport à la saison, parce que la semaine du titre de meilleur joueur de la semaine pour Murray, elle est trompeuse, parce qu'ils font un bilan de 3-1 sur la semaine écoulée. Mais pendant toute la saison, ils ont été en bilan négatif. Et s'ils sont encore dans le coup du play-in, c'est parce que les Raptors et les Nets sont pourris.
Ah oui, bien sûr.
Ils sont vraiment efflingués, ces mecs-là. Les Hawks ne méritent même pas d'aller au play-in par rapport à ce qu'ils nous ont fait cette saison, avec bon nombre de matchs inregardables. C'est très compliqué à regarder. Donc à l'Est, les positions sont quand même figées, les gars. Faut qu'on se le tienne. Et en effet, par contre, là, Quentin, je peux te suivre le bail de miser sur les Bulls, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça vaut le coup.
Grand DeRozan.
Embiid va pas revenir au meilleur niveau. Les Bulls ont les mecs pour faire mal aussi. Hein. Ces imbéciles ont trouvé certes moins de perte contre les Wizards il y a 3-4 jours à domicile, putain. Mais ils ont battu les Wolves. 109-101, une vraie victoire. Une vraie victoire des Bulls.
Vous savez quoi? Moi, je pense que le classement qui est actuellement restera inchangé. Je pense que Miami va gagner face à Philadelphie dans un premier temps. Chicago va gagner contre Atlanta, mais que derrière, Philadelphie va faire le nécessaire contre Chicago. Et Joel Embiid ne reviendra pas. Enfin, il ne reviendra pas avant les playoffs.
Ouh, c'est courageux, ça.
Je pense que Philadelphie... Miami, voilà. Miami, c'est... On sait ce que ça vaut. Donc, on sait très bien que ça va prendre le spot sans trop se craquer. Je vois quand même mal Philadelphie. Alors, si c'est sans un Joel Embiid, je vois mal quand même Philadelphie gagner contre Miami. Après, pourquoi pas, hein, on sait jamais, hein, parce que il y a quand même un effectif de qualité. Mais pour moi, ça reste inchangé. On aura au premier tour donc Milwaukee, Miami et Boston, Philadelphie.
Mais on va être vite tablé là-dessus, hein, Vlad, parce que ouais. Vendredi, il y a un Heat Philadelphie qui arrive voilà. Là. Ça, c'est un match ouais. Vrai. C'est un match ah ouais. Clé.
Un match test.
un match très important. Mais par contre, là où c'est important du côté des Sixers, notamment pour un match potentiel face aux Bulls, mais il faut qu'au niveau de la peinture, il faut qu'il soit présent parce que de l'autre côté, tu as du Vucevic et du Drummond in the paint. Les Bulls ont déjà tenté ce type d'expérience en mettant les deux big men dans le 5 majeur. Je crois qu'ils ont un bon bilan aussi dans cette configuration. Donc, ça, c'est toujours des détails à prendre en considération, à faire face dans la peinture. Et moi, Paul Reed...
Ouais, Paul Reed.
C'est un petit peu léger.
Ouais, bah après, il peut toujours sortir une bonne perf, hein, on sait jamais aussi. Hein.
Il a du talent.
Mais voilà, il a du talent en effet. Oui.
Est-ce que je peux rajouter un petit truc sur les Sixers?
Vas-y, j'ai peur, mais vas-y.
En vrai, je pense qu'ils peuvent y passer, mais seulement si Embiid n'est pas là. Parce que Embiid, dans les matchs couperets, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter?
Non, faut le considérer. Arrêtez.
Ça y est, je me disais, ça c'était pas encore arrivé, ça.
Non, mais arrêtez. Arrêtez. Il faut prendre en considération, aussi le niveau de ces matchs couperets. Là, je crois que tu parles des demi-finales de conférence, c'est ça?
Bah, de toute façon, je vais pas parler des finales de conf.
Ouh.
Allez, merci à tous, c'était Forever.
Oh, grand fan des Sixers qu'il est.
Bon, Vlad, je te laisse répondre.
Non, mais vas-y, laisse-le. Écoute, de toute façon, tout le monde sait très bien que je vais supporter New York face à Cleveland au premier tour. Voilà.
l'augmentation, Brice, voilà. L'augmentation.
En tant que nouveau vendeur de New York. Passons à l'Ouest. À l'Ouest, donc du coup. Donc Phoenix, Sacramento, les Lakers, Golden State, sachant qu'il y a toujours Houston qui reste dans la course, hein, qui est toujours derrière les fesses des Warriors. Et on a aussi du ballottage plus ou moins entre Dallas et New Orleans qui sont à la 5e et 6e place respectivement.
Bien sûr.
Ah, c'est pas évident. Par contre, à l'Ouest, c'est vraiment pas évident parce que je pense que quand on regarde les matchs, tout le monde se tient pas à la barbichette. Et c'est ça qui est compliqué à l'Ouest.
Comme à Phila Turner. Pardon.
Le problème, c'est que dès que tu perds à l'Ouest, tu dégringoles rapidement. Et c'est ça qui est problématique avec la conférence Ouest, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que là, New Orleans, ils sont sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu contre nous ces derniers temps, mais ils proposent du jeu, ils proposent de la qualité.
C'est vrai que
moi, j'ai un petit doute sur Phoenix, parce que même avec la structure... pharaonesque qu'ils ont là avec Kevin Durant, Booker et puis l'homme qui est à l'infirmerie, c'est pas solide, ça tient pas la route. Alors face à des équipes moyennes, ils peuvent rouler dessus, mais face à des équipes organisées, j'ai du mal à croire que Phoenix puisse faire la différence. Et le problème, c'est qu'à Sacramento, y a des blessures aussi. Hein. J'ai pas regardé dernièrement, mais on a annoncé Monk qu'il en a pour quelques semaines. Donc, le souci, c'est est-ce que les joueurs du banc vont step up? Ça aussi, c'est difficile à mesurer. Donc, franchement, moi, je vois New Orleans encore rester à cette position 6. Par contre, entre Sacramento et Phoenix, je pense que Sacramento peut faire le job sur Phoenix.
Moi, j'attends juste que Phoenix... perdre contre Sacramento, puis les Lakers, et ma Penda, je l'attends, mais tellement.
Je savais que dans ma tête, mais c'est vrai qu'on lui dit souvent dans les groupes ou dans les discussions qu'on a avec lui, le problème, c'est qu'on attend beaucoup de Kevin Durant, parce que peut-être que lui, il ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est quand même un joueur top tier, et un joueur top tier, il est censé relever la sauce. Il n'est pas censé vous regarder et dire « Bon, maintenant, je vais jouer, je vais faire le maximum et puis je vais me rasseoir. » Non, il est censé venir et vous dire « Les gars, bougez vos fesses, on va faire du vrai truc, tu vois. »
Ah oui, c'était pas Kevin Durant quand il était à Golden State, il disait « You know who I am ?» C'est pas lui qui disait ça.
I'm Kevin Durant.
Non, mais, hein Voilà, mais le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup le offensivement dans son style de jeu. C'est quelqu'un, mais comme le dit souvent Damaz, dans son leadership, il n'est pas à niveau.
Quentin ? Ça...
Bah, est-ce que je vais contredire les histoires de leadership de M. Kevin Durant ? Je ne pense pas. J'ai un petit doute. Bah, et puis même, justement, tu parlais de leadership aux Suns. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai leader dans cette équipe ? Est-ce qu'ils ont vraiment fait la hiérarchie entre KD, Booker, bon, on va pas compter Bradley Beal, hein. On sait très bien où il est.
Par de citron, là. Ouais, voilà.
mais en vrai, j'ai un peu peur pour les Suns, déjà pour le play-in, et je pense qu'ils vont passer le play-in, hein, spoiler. Mais même pour les play-offs, parce que t'as pu, même si moi le premier, on s'est souvent foutu de lui, hein, monsieur Chris Paul, faut quand même admettre que ça restait un leader, un leader vocal, un leader de vestiaire quand même.
Oui.
Et là, j'ai un peu peur avec le petit con qui est Devin Booker et comment je pourrais dire ça, le déménageur qui est Kevin Durant. J'ai un petit peu peur.
Déménageur breton.
Oh putain.
J'ai un peu peur pour les Suns, tu vois, sur ce niveau-là. Ouais.
Pourquoi breton?
Ah, c'est la marque.
Parce que c'est les plus connus.
C'est les plus connus. C'est tout ça.
Malade. Excuse-moi, mais... Quentin.
Vas-y, Quentin, termine.
Et puis, bah, tu sais quoi, pour la suite du play-in, les Lakers. Parce que, voilà, match serré, LeBron James. Pareil, pas besoin d'en dire plus, je pense.
Ouais. Une certaine logique, on va dire.
Surtout que bah, les Warriors, ah, ils aiment bien jouer les Warriors quand même.
Ouais. Ah, surtout que les Warriors, bon, ils s'est bien amusé déjà avec la saison dernière. Il y a eu aussi une confrontation au play-in en 2021. On sait aussi comment ça s'est terminé. Donc, bon, on verra bien en effet ce que ça va donner. Mais du coup, là, si vous en avez deux à sortir là, dans le lot,
Suns et Lakers.
Suns et Lakers, ok. Toi, Damas?
Pour ma part, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des Warriors. Parce que les Warriors, cette nuit, ils affrontent les Mavs. Donc, on connaît la dynamique, on l'a évoqué. C'est un gros match. Mais les Warriors redeviennent intéressants défensivement. Et ça, c'est un critère qui est important parce que, en cas de victoire cette nuit, je pense qu'ils mettent un vrai stop à l'énergie que présente Houston. Houston a perdu face aux Mavs, hein, comme vous le savez. Bon, ça va pas être facile, hein, de battre Dallas, on est d'accord, mais on sait que les Warriors ont l'énergie pour battre tout le monde, ont le niveau pour battre tout le monde sur une rencontre. Ils s'améliorent défensivement, je l'ai mentionné. Donc, Golden State pourrait envisager, selon moi, d'être performant en playoff, surtout que les Kings ne sont pas du tout dans une bonne figure. Et regardez, moi j'ai regardé un petit peu pendant que vous parlez, messieurs, le programme qu'on attend les Kings, parce qu'on parle beaucoup,
c'est ça.
On parle beaucoup des Suns, ouais, par rapport en effet à un gros calendrier et qui est clair. Mais regardez les Kings affrontent les Clippers cette nuit, il y a les Knicks qui arrivent vendredi, il y a les Celtics, ils respirent avec les Nets de Brooklyn là, enfin bref, ils sont dans n'importe quoi. Mais après t'as le Thunder qui lutte pour finir premier à l'Ouest, et Dieu sait que c'est important pour l'équipe du Thunder, mais aussi pour SGA, qui se tape pour le titre d'MVP. Hein. Moi, je pense que ça va être important. Mais après, t'as qui ? T'as les Pelicans et les Suns ! Ah non, les Kings sont vraiment en danger, dans la mesure où vous avez évoqué les blessures, notamment Malik Monk, qui est, je pense, pour la plupart d'entre nous, le meilleur sixième homme de la Ligue. En tout cas, on a le droit de le penser. Avec tous ces détails-là, les Kings, ils peuvent encore une fois se taper les Warriors en étant 9e, hein, parce que je pense que les Lakers se passeront devant. Je le pense. Mais on pourra enfin un peu se tromper vu que défensivement, ils ont montré de telles largesses. Mais ce qui est intéressant avec les Lakers, c'est qu'ils ont toujours, dans les matchs clés, ils arrivent toujours à se mettre au niveau défensivement. Sur beaucoup de rencontres, c'est comme ça. Ils te ferment la boutique, ils te font des vrais efforts. Et de la part de tout le monde. Donc ça, à ce niveau-là, on peut faire confiance aux Lakers pour pouvoir se mettre à niveau sur les matchs clés qui arrivent sur début avril. Et bon, les Suns, on les a déjà clashés, on les a déjà embrouillés, je ne vais pas revenir dessus. Moi, juste pour terminer mon intervention sur l'Ouest, New Orleans était sur une très bonne dynamique. C'est vrai qu'il y a les deux défaites de merde, là. Enfin, de merde, mérité, parce que les Six ont dominé toute la rencontre samedi dernier. Ils ont perdu face à un Devin Booker exceptionnel. Ah ouais, les gars, parce que là, j'ai entendu petit con sur Booker, excuse-moi. Hein. C'est pas tout le monde qui met. Mais pourquoi c'est un petit con?
Bah, je parlais plus de son comportement, tu vois.
Son comportement.
Ouais, bah, le nombre de mecs NBA qui sont bêtes, excusez-moi, hein, le chiffre, il est pas mal. Hein. quand t'as 75% des joueurs dans la ligue qui finissent financièrement fauchés après 3 ans après leur carrière. Vous rigolez ou quoi?
C'est terrible. Ça,
c'est l'expert financier qui parle.
Oh, mais, excuse-moi, Booker, il n'y a pas que lui dans la sauce. Hein. Mais ouais, voilà, New Orleans, ce qui me dérange, c'est qu'ils ont été longtemps cinquième. Ça me dérangerait quand même qu'ils finissent derrière les Mavs. Moi, j'ai une petite affection pour cette équipe. J'aime beaucoup la ville, l'énergie qu'il y a. J'aime bien Brandon Ingram, que vous n'arrêtez pas d'insulter, de fumeur de ganja. mais malheureusement...
Il n'est pas stable, il faut l'avouer quand même, Damas.
C'est-à-dire stable sur quoi? À quel niveau?
Non, mais franchement, on parlait d'éthique tout à l'heure. Quand même, c'est pas, il dégage pas cette éthique de travail.
C'est un bosseur, hein.
Ah, vous trouvez? Tu trouves? Oh. Ah, t'es dur, hein.
Non, il bosse.
Un bosseur, hein.
Tu dis,
c'est pas le meilleur talent, mais il taffe, le mec. Hein.
Il en a du talent, quand même. Hein.
C'est vrai, il taffe.
Il
taffe. Mais c'est vraiment l'image qu'il dégage. Je pense que c'est plus l'image qu'il dégage.
Oui, bah, c'est sa nonchalance.
Il a plus.
Il sait pas lui-même, tu vois.
Il a plus une tête à faire du diabolo devant la gare que du basket, mais...
Diabolo. Un sadiste.
mais vous voyez, regardez le programme quand on les Pelicans, ou moi, où je m'inquiète aussi. Vaut mieux pour eux qu'ils ne tombent pas au play-in, parce qu'il y aura le Magic qui arrive déjà dans 2 jours ou 3 jours. Après... T'as les Spurs où il faut en effet gagner. Ils affrontent encore les Suns. Ils affrontent mes Blazers. Bon, là, encore une fois, il faut gagner. Après, t'as les Kings, t'as les Warriors et tu finis avec les Lakers. Ils affrontent que des teams qui sont en bail de play-in. L'équipe à regarder où tu veux un petit peu kiffer, c'est New Orleans au niveau du classement. Et la première team favorite pour le play-in, pour répondre à cette question, Vlad, rapidement, c'est les Lakers. C'est les Lakers. Lakers, moi je vois Lakers et Warriors passer.
Oh,
mais okay. Tu parlais de calendrier, du coup je fais comme toi, je suis allé voir. Les Warriors, il est pas mal le calendrier de fin de saison.
Ah, c'est vrai, ils ont qui?
Là ils font Mavs, Rockets, Remavs.
Oh merde.
Ça c'est les 3 prochains matchs.
Ah oui.
Après c'est Jazz. Ça, c'est déjà un peu plus facile, mais le Jazz ça joue quand même. Après t'as les Lakers. Il y a les Blazers, bon, ça devrait aller. Les Pels, et tu rejoues le Jazz en fin de saison.
Mais, alors attends, du coup, parce que je rebondis là sur ce que tu viens de dire, Damas, tu vois les Lakers et Warriors, donc ça veut dire que t'as soit Phoenix, soit Sacramento. Enfin, les Lakers passent devant soit Sacramento, soit Phoenix.
Ah, moi, je pense que les Suns peuvent se faire frapper.
Donc là, ça veut dire que d'ici la fin de saison, là, t'as les Suns qui vont downgrade au niveau des places et qui vont se retrouver potentiellement 9e.
Ah, mais moi, ils ont deux
victoires d'avance, Vlad.
C'est
par la barbichette.
Ça se joue à rien, hein, bien sûr.
Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, les Warriors, je pense qu'ils peuvent battre les Suns. Et je vais même l'expliquer pourquoi. Les Suns, c'est la plus mauvaise équipe du quatrième carton de toute la ligue.
Mm-hmm.
C'est la plus mauvaise. Elle encaisse le plus de points. Et en plus, elle en score le moins possible avec les 3 larrons qu'on connaît. Moi, toute la saison, ils ont lutté pour avoir une cohésion de jeu. Malheureusement, Frank Vogel a échoué. Je le savais dès le début que ce n'était pas le bon choix. Mais certains mecs disaient, ouais, il a fait des finales de conférence. Il a gagné NBA avec Disney. Eh gros, les Suns sont en perte de vitesse. Ils ont fait des choix drastiques pour gagner vite. Ils se sont en danger. Pour ma part, je peux voir vraiment les Warriors leur causer des problèmes. Bon, déjà, il faut qu'ils y arrivent déjà. On n'en est pas là. Mais pour moi, Warriors et Lakers, ça passe au premier tour.
Ok. Bon, ça marche. Alors, je ne sais plus si je t'avais demandé, toi, Apollo, du coup.
Si, j'ai répondu en premier, moi.
Ouais, je ne savais plus. Quentin aussi, je t'ai demandé, je ne me rappelle plus, désolé.
Oh ouais, j'ai déjà donné mes avis.
Ah, donc il reste plus que moi. Ok. Écoutez, je pense Pareil, je pense que le classement va plus ou moins rester inchangé. Je vois donc confrontation Phoenix, Sacramento et Lakers, Warriors. Je pense que le chemin ne sera pas forcément facile pour les Lakers, mais alors Suns, Kings, je vois Sacramento passer, donc qui prend la place numéro 7. Et les Lakers qui gagnent hein, contre le Golden State, je pense pas que ce sera. Je pense que c'est plutôt logique aussi. Et par contre, juste pour avoir ma penda sur un futur épisode de Forever, je vois juste les Lakers après derrière passer contre les Suns pour avoir la 8ème place. Voilà.
Bien sûr.
Voilà.
Faut le finir, ce
match. Penda, on t'attend, on va finir.
Mais Damas, de toute façon, il a signalé, hein, franchement, il y a deux équipes dans la ligue qui sont claquées sur le quatrième carton, c'est eux et les Pelicans. Donc, en vrai,
absolument.
Si tu n'arrives pas à régler ce problème-là avant d'arriver dans les playoffs ou dans les play-in, tu es dans la sauce.
Ah, tu es dans la sauce. Clairement. Vraiment dans la sauce. Ça compte vraiment. Hein. Ça compte vraiment. Si Charlotte est devant toi au classement, dans un classement pareil, faut te poser des questions.
Okay. Mais
j'aime bien le scénario de Vlad, du coup ça ferait un LeBron versus Curry, un LeBron versus KD juste après.
Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
Il veut leur rappeler qui est le papa.
Grave.
Ouais, mais c'est là où on voit quand même que nos stars des années 2010 arrivent quelque part en fin de route, parce que les équipes qui sont premières à l'Ouest, c'est des équipes à petit marché. Hein. Le premier gros marché majeur, c'est les Clippers.
Oui.
C'est les Clippers, après t'as Dallas, mais on va dire les grosses teams qui réunissent les meilleurs joueurs des années 2010 souffrent pour aller en play-off aujourd'hui. C'est une réalité qu'on voit maintenant depuis 2 à 3 ans maintenant. Hein. Donc, c'est pas des choses qui sont censées être étonnantes pour nous. Et ce qui est kiffant, c'est que là, la NBA a clairement pris le bon virage en mettant en place le process play-in. Là, oui.
Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne d'ici là, mais en tout cas, Mapeda, on t'attend pour te frapper. Alors, ensuite, donc, on passe. Alors, voilà, c'était le petit débat de la semaine. Comme d'habitude, hein, on va partir sur la dernière séquence. Donc, le Starting 5 et les coupeurs de citron. On va commencer déjà par le positif. Donc, le Starting 5, bon, je pense qu'on a déjà notre traction arrière hein, avec les deux joueurs de la semaine, que sont Dejounte Murray et Luka Doncic. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord.
Oui.
Ok, très bien. En 3, on mettrait qui?
Je peux être casse-couille?
Vas-y, sois casse-couille.
J'ai un monsieur qui s'appelle Devin Vassell. Il a joué 3 matchs, 3 victoires, quasiment 27 points de moyenne, quasiment 7 passes, quasiment 2 interceptions.
Est-ce que ça vous irait, messieurs?
Oui. Bah, allez, on lui fait plaisir, on lui donne. Voilà. Allez.
C'était pas qu'il n'y a pas très longtemps. Allez, allons-y.
Allez,
voilà. C'est l'heure des œufs. Allez, hop.
C'est l'heure de la chasse aux œufs. Voilà. Allez.
Voilà.
En 4, on aurait qui?
Bonne question.
C'est
pas évident. Pas évident.
Non, c'est pas évident, mais j'ai bien. Putain, j'allais dire Draymond Green. Vas-y, il a été expulsé, cet imbécile.
Non.
Il a tout foutu en l'air, là. Oh, il a...
Et je maintiens, le naufrage de Golden State, ce sera lui le principal responsable.
T'es sûr? Il n'y a pas un autre nom qui vient avant?
Vas-y, Clay Thompson qui est sur foutu. C'est bon.
Non, en 4, tu peux mettre Zion. En 4, tu peux mettre Zion parce que malgré les défaites de New Orleans, que ce soit la veille ou face à Boston, offensivement, le mec, il a des pourcentages très, 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 très élevés.
Ouais, il est constant. Il est constant.
Ouais. Non, vraiment. Zion. Ouais,
mais... C'est quand même deux défaites hein, d'affilée. Hein.
Je te l'accorde. Mais tu vois, les Clippers, tu vas mettre qui? Moi, Clippers, j'aurais bien mis Paul George, mais il n'est pas poste 4.
Bon, on peut le décaler.
Moi, j'avais un mec qui peut jouer, qui joue même 4 cette saison, cette semaine. Jalen Williams.
Pourquoi pas, hein?
Ouais, c'est du 24-4-6.
Oh, c'est pas mal, oui.
Oh, c'est bon, c'est bon.
Ouais. Allez, go pour Jalen Williams.
Non, et en plus, je viens de voir, il a gagné contre les Pels.
Ah bah voilà, donc bon.
Bien sûr.
Allez, go pour Jalen Williams. En poste 5, est-ce qu'on récompense un mec qui a fait 40-20?
Ça le pense, ouais.
Oui, et en plus, on est français, donc ça va.
Voilà, un peu cocorico.
On peut y aller.
Ah oui.
Mais c'est quand même dommage qu'on en arrive là. Hein. Mais on valide.
Bon, allez. Go pour Victor. Ça marche. Alors, du coup, le 5 de départ, enfin, le starting 5, ouais, ça donne Doncic, Murray, Vassell, Williams et Wembanyama.
Et en plus, je viens de regarder les stats de Victor sur la semaine.
Ah bah, il a des stats de port. Hein.
Bah, 30 points, 12 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 3
voilà.
contre.
Voilà.
Allez, merci, voilà. Au revoir.
Voilà. Merci, au revoir. Merci pour tout. Très bien. Ensuite, nos coupeurs de citron. Vous voyez qui, du coup? Moi, je verrais bien New Orleans pour le coup.
Ah, j'aurais bien vu des mecs de Portland déjà. C'est encore ce Scott Anderson à la con là. Qui met ses lunettes.
Putain, moins 50. C'était moins combien? Moins 50.
58.
Moins 58 de plus minus quoi. Putain,
mais tu sais qu'il a deux des trois pires plus minus de l'histoire déjà.
C'est un truc incroyable.
C'est un truc de ouf. Et les Américains, comme ils se moquent de nous. Oh, ah, ça devient inquiétant.
Ça devient non, inquiétant. C'est pas qu'ils se moquent de nous. Je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point. Ils n'ont pas pris. Mais il y a un mec qui a posté un truc il n'y a pas très longtemps, justement, sur Insta, qui disait qu'en vrai, la préparation et les entraînements, c'est plus important que de jouer. Et je ne sais plus c'est quel coach qui montrait, il y a une vidéo qui disait que le problème, c'est qu'aux États-Unis, les gens, ils ont envie de jouer, mais ils n'ont pas envie de se préparer. Et c'est là le vrai problème. Tu vois, en Europe, les mecs, ils s'entraînent beaucoup et ils ne jouent pas beaucoup en vrai des vrais matchs.
Ouais.
Et comme ils sont entraînés, quand le match arrive, ils ont déjà cette logique de dire OK, toutes les possessions comptent. Et je pense qu'aux États-Unis, ce n'est pas le même truc. C'est, après, comme on le sait, hein, c'est du spectacle, en vrai. On n'apprend rien. Mmh. C'est du show. Donc, s'il faut en mettre plein la vue, moi, le nombre de fois, depuis que je suis au basket, tu vois des mixtapes sur le net, des gens qui font des trucs de ouf. Mais c'est des petits bouts, mis bout à bout, d'un mec, ce qu'un mec peut faire. Mais en vrai, dans un vrai match, est-ce que le mec, il peut faire tout ça?
Bah, est-ce que c'était pas les déclarations de... Ah, ça y est, j'ai perdu son nom. Du coach des Hornets.
Si.
Ouais, c'est suite à ces déclarations. Bah justement, on a un épisode.
Clifford.
Ouais, voilà.
Clifford, merci.
C'est ça.
Ouais, il a raison. Hein.
Par contre,
bien sûr.
Vous parlez de Scoot, je viens de voir son ratio passe décisive, perte de balle la semaine dernière.
Oh putain.
Il est négatif.
Waouh, c'est chaud.
5,3 passes pour 6 pertes de balles.
Oh là là là. Oh putain.
En Euroleague, il joue même pas, le pauvre.
Bah non, il joue pas. Pourquoi le pauvre? Qu'il aille s'asseoir.
Un joueur de National Lune.
De région.
Voilà, avec qui je jouerais très bien, c'est Draymond Green au passage.
Bah, Vlad, tu peux mettre également la team des Warriors, des Raptors, pardon.
Des Raptors.
Oh mon Dieu, 13 défaites consécutives.
Ouais. Et on n'en parle pas, c'est ça le pire. Tellement on se trompe.
C'est un truc de ouf. Il se passe absolument rien. Drake ne va plus à l'Air Canada Center. Hein. C'est terminé, ça. Et puis un joueur qui a été vraiment... comment il s'appelle, Bruce Brown. Là. Oh là là, en termes de trade, il est dans un bourbier.
Ouais, il a pris l'oseille. Hein. On ne faut pas se mentir, Damas.
Oui, il a fait un choix. Mais de base, à la base, il était à Indiana.
Oui.
Et Indiana n'était pas mauvais en début de saison. On a toujours été régulé dans ces environs-là en termes de place au classement, voire un petit peu plus haut avant la blessure de Tyrese Haliburton. C'est un vrai down au niveau du classement.
Ah, c'est donc, vrai que c'est un peu compliqué là, ouais.
Ah, c'est dur. Hein. Donc tu peux mettre, moi, je mets les Raptors parce que c'est pas possible.
Allez, bah go pour les Raptors. Il nous reste deux spots si vous souhaitez les remplir ou sinon ça peut suffire.
Draymond Green.
Ouais, bon, vas-y, lis. Ouais, je sais même pas pourquoi je pose la question, j'aurais dû le mettre direct. En vrai. Bon, on va pas revenir sur le sujet, hein. Je pense pas que ça vaille le coup de plus s'attarder sur son sujet. Hein.
Et puis le coach des Brooklyn Nets, Kevin Ollie.
Ah, c'est quoi,
c'est un coach par intérim.
Ah, c'est dur, ouais.
Ouais.
Ah, la position, elle est pas simple. Hein.
Ouais.
Puis surtout qu'en plus, de base, c'est même pas un coach.
Ah ouais. Si, c'est un coach, Kevin Ollie.
Tu vas mettre.
Non, mais je veux dire un coach.
Ah, bah, c'est un coach. Lui, il était en NCAA, lui, il était à UConn.
Il était pas. Attends. Parce que non, là, cette saison, il était pas coach au début.
Non, il était pas coach.
Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Non, il était libre, ouais.
Ah ok.
Oui, mais bon quand même, double champion d'affilée NCAA avec UConn, ça va, c'est quand même plutôt sérieux sur le CV aussi. Hein.
En effet.
Il y a pire pour le coup. Mais bon, allez, si vous souhaitez, on peut mettre Kevin Ollie si vous avez personne d'autre. Comme ça, ça complétera les coupeurs de citron. Eh bien, écoutez, très bien. Merci, messieurs, pour ce nouvel épisode de Forever. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on conclue ?
Les Lakers perdront avant, ne jouent pas le titre. parce que je les déteste. Ils m'insupportent. Mais ils sont quand même forts. À l'Ouest, il y a une vraie bataille. Je conseille vraiment aux gens de regarder les playoffs cette année. J'espère vraiment qu'on arrivera à pas mal de séries où on sera à 4-3, 4-3, 4-4. Voilà, les matchs 7. J'ai envie de vraiment kiffer pour cet été. C'est le dernier été où je ne suis pas marié. Donc, j'ai envie de grailler.
Il pense que quand il sera marié, il n'aura plus l'accès à la télévision.
ne t'inquiète pas, ça fait 3 ans que je suis dans cette galère et ne t'inquiète pas, je peux toujours regarder les matchs.
Dans cette galère, il a dit.
Galère, t'as dit galère. Il
a dit une galère.
Quelle chute. Chute dans le peloton, comme dirait le Tour de France. Chute dans le peloton.
Vraiment.
Chute.
Eric Zabel.
Il a dit galère.
Oh là 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 là, mon Dieu, où est-ce que j'y vais? Bon, merci en tout cas, Vladimir.
Mais écoute, avec plaisir, hein, surtout si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, histoire de nous donner un petit coup de pouce pour le référencement. Cela fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver Forever aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok, sur le compte Forever Podcast ainsi qu'Instagram, le compte Forever le Podcast, où vous trouverez donc du contenu quasiment quotidiennement. Et on vous dit à mercredi prochain, et surtout n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao ciao.